Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour chez vous. C'est l'heure de parler Bana Okapi, votre émission quotidienne préférée, fruit du partenariat Radio Okapi et UNICEF. Il est surtout question dans son magazine de donner la parole aux jeunes et plus jeunes, sans exclure leurs parents, pour leur permettre de s'exprimer sur les sujets qui comptent vraiment pour eux. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur des universités pour parler d'un mal qui ronge le secteur de l'éducation, à savoir la corruption. Est-ce une autre cause du chômage chez les jeunes ? On en parle de plus en plus du monnayage de points communément appelé branchement. Ce phénomène est souvent évoqué en cas de perte de cotes, des interrogations ou d'examens. Et on recourt à l'argent pour le suivi du dossier en vue de décompter la situation. Dans ce lot de la corruption, il y a lieu d'intégrer aussi le concept de points sexuellement transmissibles, PST, comme son nom l'indique. Le sexe sert donc de monnaie d'échange pour décompter la situation. Comme on peut le constater, le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo est en proie en toutes sortes de corruption. Ces pratiques courantes définissent les relations entre les étudiants et les corps enseignants et administratifs, professeurs, chefs de travaux ou assistants. Comment ces pratiques impactent sur l'employabilité des jeunes ? Est-ce que les jeunes qui terminent leurs études dans un système aussi corrompu arrivent à se défendre dans leur vie professionnelle ? À suivre dans ce magazine que vous propose l'équipe Bana Okapi. Je suis Sarah Soumbela, je vous présente ce magazine. Hippolyte Kapanga est à la prise de son. Polydor Basunga est à la mise en onde. Christian Mapena nous coordonne ce programme. Jean-Marc Matsuaki Mofelele Dijano est à la supervision. Ouvrons ce magazine dans la bonne humeur. Okapi. Auditeurs de Radio Okapi, amoureux de Bana Okapi, la corruption reste une réalité dans certaines institutions universitaires de la ville de Beni au Nord Kivu. Interrogés sur le méfait de cette pratique dans la vie professionnelle, certains étudiants à qui nous avons tendu notre micro pensent que la corruption est l'une des causes du chômage de plusieurs jeunes, car ils finissent les études avec des têtes vides. Comme l'expliquent certains étudiants au micro de Guylaine Kassassia.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il de la corruption dans votre institution?
Bon, je dirais non parce que je ne l'ai jamais vu et écouté. Si vraiment il y a de la corruption, peut-être que j'allais être au courant. C'est, on dit très souvent que ce qu'on n'a jamais vu, et bon, voir de ses propres yeux, on ne peut pas les confirmer que ça existe.
Oui. Alors, selon vous, est-ce que la corruption aide certains étudiants à dire les faux? À réussir?
Bon, je dirais oui. Ça dépend des cas. Parce qu'il peut y avoir que tu peux, on te dit d'échouer avec 56% peut-être, soit 60%, parce que tu t'es mal comporté et que tu es ami peut-être à un enseignant, puis tu te demandes de l'argent, il te dit si tu me donnes de l'argent, tu vas réussir. Mais ce que moi je peux dire, c'est pas bon. Il faut réussir par ses propres moyens, par ses propres, bon, son intelligence en fait.
Est-ce que la corruption n'est pas un risque de rattraper les étudiants dans les temps?
Bon, c'est un risque pour les gens qui corrompent sans étudier parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas au cours et puis ils viennent, ils donnent de l'argent à un enseignant et puis dans la vie professionnelle, ils arrivent, ils manquent comment travailler. C'est un risque.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il de la corruption dans votre institution?
J'en dirais non, parce qu'au moins quand même, tous les étudiants de cette institution s'efforce pour se démener afin d'avoir une bonne éducation.
Pensez-vous que la corruption peut aider les étudiants à réussir?
De toutes les façons, chacun a sa manière de réussir et chacun a sa manière de voir comment il peut ouvrir la porte pour sa réussite. Et c'est là pour certains qui étudient pour la corruption, oui, ça peut aider, mais pour les autres qui étudient pour s'efforcer, à vie d'avoir leurs propres connaissances, je dirais que ça, non, d'abord.
Et la corruption n'est-elle pas un risque pour attraper les étudiants plus tard, ceux qui corrompent?
Oui, c'est un grand risque. C'est un grand risque dans le sens où, aujourd'hui, je peux corrompre un enseignant, ici à l'auditoire, soit ici à l'institution. Mais une fois que je trouve le boulot ailleurs, dans une société, soit un établissement, ça peut me rendre, soit me coûter cher parce que je faisais des corruptions dans les institutions, ou soit à l'auditoire. Mais une fois au terrain, ça me rattrape. Et donc, je peux dire que c'est un grand risque pour la vie professionnelle d'un étudiant, soit d'un expert, élève, soit écolier. Donc, la corruption vraiment n'est pas tout à fait bonne.
Pour dire que cela peut être une des causes du chômage des jeunes.
Évidemment, cela peut être une des causes. Imaginez-vous, je trouve aujourd'hui le boulot et que je pars au test, que je ne satisfais pas la personne qui va m'interroger. Alors, c'est là, une fois que j'échoue à des questions, peut-être que ce sont des questions que, une fois que je me démène à l'auditoire, ce sont les mêmes questions qu'on peut aller me poser là-bas. Et que une fois que j'ai passé la corruption des enseignants, et je risque, pas risque, je dois toujours perdre les jobs. Et cela ne peut pas faire assez que j'ai du boulot.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il de la corruption dans votre institution?
Oui, il y a certains cas qu'on apprend ici de la corruption.
Comment ça se passe?
En fait, je ne sais pas comment ça se passe, mais en fait, c'est souvent dû à la paresse des étudiants. Ils ne veulent pas passer aux évaluations, ils sont obligés de corrompre les enseignants. Et il y a aussi certains enseignants aussi qui poussent aux étudiants de le corrompre. Il y a certains enseignants tout au départ, au début du cours, ils commencent à dire que le cours est un peu difficile et ils appellent les étudiants à pouvoir donner quelque chose pour qu'ils puissent réussir.
Alors, pensez-vous que cela aide beaucoup d'étudiants à réussir?
Oui, certains qui sont paresseux, oui, ça les aide à réussir.
Et alors, est-ce que cela ne risque pas de vous rattraper ou de les rattraper plus tard?
Oui, en tout cas, il y a un grand risque là-bas. Parce que si on vient ici au cours, c'est pour apprendre quelque chose, pour être aussi important dans l'avenir. Alors, quand on réussit par corruption, c'est ce qui, directement dans la tête, on n'a rien. Et cela risque d'impacter dans l'avenir, surtout dans le travail qu'on est appelé à faire.
Et pour finir, cela n'est-il pas aussi une cause de chômage chez les jeunes?
Oui, oui, ça aussi, ça peut être une des causes, parce qu'il y a certains jeunes, dus à la corruption, ils ne savent même pas faire leur CV, aussi écrire des lettres de motivation, et surtout quand il y a de l'empoche, ils ne parviennent pas à réussir au test.
Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie, merci.
Dans presque toutes les institutions, on ne peut pas manquer quand même de corruption. Ça se fait quand même.
Comment ça se passe chez vous?
Au sein de notre institution, il y a plusieurs catégories de corruption. Et effectivement, chez les femmes, par exemple, soit chez certaines filles, là, vous allez voir une fille qui va seulement livrer son corps à un enseignant à cause de certains points. Et chez les hommes, maintenant, ça se fait moyennant quelques sommes d'argent et l'enseignant va demander quelque chose pour qu'un étudiant trouve un peu de poids afin de réussir un cours quelconque.
Alors, pensez-vous que cela aide beaucoup les étudiants à réussir?
Ça aide bien sûr aux certains étudiants de réussir, mais plus loin, ça affaiblit en fait. Vous allez voir quelqu'un qui va finir ses études, bien sûr, va défendre, mais pendant qu'il est dans la tête, il n'y a absolument rien, parce que il réussissait seulement à cause de la corruption. Quant à moi, ça aide bien sûr aux étudiants de réussir, mais ça a quand même un effet négatif alors sur le plan intellectuel, parce que l'étudiant va finir bien sûr, mais en ayant des vides dans la tête à cause de la corruption.
Y a-t-il de la corruption dans votre institution?
Je peux dire qu'il y en a, malgré que j'ai jamais rencontré cette étape-là.
Comment ça se passe?
L'étape de corruption, je crois que souvent c'est le temps des examens. Après les examens, quand on veut afficher les valves, et puis donc il y a des étudiants qui ont peur
d'échouer et de perdre l'argent de ses parents juste gratuitement comme ça. Et puis, il passe à l'étape de corruption pour voir si les enseignants peuvent l'aider pour évoluer avec les étudiants.
Alors, selon vous, pensez-vous que cela aide beaucoup des étudiants à réussir?
Ça ne les aide pas parce que dès qu'il fait de la corruption, donc il n'a pas réussi avec son intelligence. Donc, il a réussi juste parce qu'il a donner quelque chose à l'enseignant.
Est-ce que cela ne risque pas de vous rattraper plus tard?
Oui, bien sûr, ça va nous rattraper, nous, les étudiants, parce que on n'a pas de la matière, mais on finance juste l'argent pour évoluer, mais on n'a pas de la matière qu'on a acquérée chez les enseignants.
Selon toi, alors, cela n'est-il pas une cause de chômage chez les jeunes?
Bien sûr, c'est une cause de chômage, parce que si on voit bien nos parents, et ils avaient étudié tant qu'il n'y avait pas trop de corruption.
Après les jeunes, écoutons ce que pensent les parents de la corruption en milieu universitaire. Rendons-nous dans les rues de Bounia en Ituri où Ezekiel Mouzalia pose la question aux parents s'ils ont déjà donné une fois de l'argent pour le suivi. On écoute.
Nous n'avons pas subventionné soit des preuves à l'appui, mais nous pouvons supposer que cela existe en milieu universitaire. Ça dépend bien sûr d'une institution à une autre. Et il y a des institutions où c'est démontré, ça existe, vu l'ampleur peut-être de la situation, mais aussi des institutions où on pourrait peut-être estimer ou soit supposer que ça n'existe pas, mais aussi on peut la considérer comme la voie de la facilité. On peut la considérer comme un raccourci. Et dans ce sens-là, la conséquence directe, c'est qu'elle peut affaiblir les apprenants, soit les étudiants, sur le plan intellectuel. Oui, c'est facile de réussir ça, corrompre, mais des gens, il va falloir étudier ou soit prendre des dispositions pour voir comment combattre la corruption. Parce que moi, je considère ça carrément comme un antivaleur. C'est que cela doit être combattu. Alors, c'est question d'essayer d'établir les responsabilités à tous les deux niveaux et de voir où est-ce que ça se pratique le plus, où est-ce qu'il y a la vulnérabilité. Quelles sont les causes, ce que c'est vraiment d'analyser et de voir quels sont les mécanismes, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour, si pas éradiquer cela, peut-être pour en réduire l'ampleur.
Pour moi, la corruption dans les milieux universitaires a des conséquences graves qui affectent non seulement les individus, mais aussi la société dans son ensemble. Par exemple, baisse de la qualité de l'éducation. Les étudiants non méritants obtiennent de meilleures notes ou réussissent par la tricherie ou les pots de vin. Ça, c'est grave. Aussi, je note qu'il y a aussi la dégradation de l'éthique et des valeurs, parce que la corruption banalise l'immoralité et encourage le mensonge, la fraude et l'hypocrisie. Alors, par cela, elle forme une génération qui croit que la réussite passe par des moyens illicites. Parce qu'une main-d'œuvre mal formée entre dans les secteurs critiques, le développement socio-économique est freiné par les compétences même et la médiocrité.
La majorité, ce sont des professeurs que les étudiants appellent eux-mêmes des antivaleurs. Ils sont là pour coincer les enfants forcément à faire la corruption. Ils gagnent 8 sur 10. Pour garder ces 8 sur 10, tu es obligé à conserver cela avec de l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, ton point là, on ne te le donne pas. Et puis d'autres fois, d'autres professeurs obligent même les enfants de donner, par exemple, 10 dollars pour que ça suffit pour son. Je ne donne pas de l'argent, mais c'est ce qui se passe souvent, ce que j'ai toujours appris. Mais ça rend nos enfants plus faibles que jamais. Et nous risquons d'avoir des années à venir des enfants fouteurs qui ne peuvent rien faire dans l'administration congolaise aujourd'hui. Donc ça rend les enfants plus faibles que jamais. Et ce n'est pas bon. Il a fallu que les enfants puissent sérieusement étudier et apprendre. On n'étudie pas seulement pour les points, mais pour apprendre la science.
Après présent, faisons place à notre invité du jour. Lui, c'est le professeur Jean-Maker Munzele Munzimi, docteur en sociologie, formé à l'université François Rabelais de Tours en France. Il est professeur ordinaire à l'université pédagogique nationale de Kinshasa, mais aussi enseignant dans plusieurs autres universités, aussi bien en RDC qu'à l'étranger. Il fait le point sur les causes sociales qui alimentent la corruption dans les universités et martèle à quel point la corruption est dangereuse dans les milieux éducatifs. Pour lui, la corruption dans les milieux éducatifs constitue une des causes du chômage chez les jeunes. Il est joint au téléphone par Jeff Opela.
Professeur Jean-Maker Munzele Munzimi, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de la corruption dans les secteurs de l'éducation. Quelles sont les causes sociales qui alimentent la corruption dans les universités?
Avant de répondre à votre question, je dirais qu'on ne peut pas stigmatiser l'université comme les creusets de la corruption. Hein, parce que si la corruption arrive à l'université, c'est que c'est déjà un système qui est mis en place. Donc, il touche plusieurs systèmes. Et l'université n'est qu'un sous-système de ce système ensemble. Voilà. Alors, pour parler des causes, pour répondre à votre question directement, je dirais qu'il y a d'abord la précarité économique des acteurs du système éducatif. Ouais, la précarité fait que enseignants ou agents se livrent à des pots de vin. Alors, vous avez aussi les regards de la société qui, à mon avis, semble normaliser la corruption, en ce sens que vous avez des parents qui instruisent leurs enfants à les corrompre les enseignants pour pouvoir y vivre. Donc ça, c'est un deuxième élément. Il y a un troisième élément, la culture de l'impunité. Lorsque ceux qui sont corrompus et ceux qui viennent corrompre pensent qu'il n'y a pas de sanctions, je pense que ça, c'est le premier recours à cette pratique. Donc il faut des sanctions positives et négatives. Naturellement, vous avez aussi la corruption qui vient du fait qu'au niveau académique, au niveau de nos universités, les gens sont nommés. Et en ce moment-là, on développe un réflexe qui fait que chacun veut s'initier au poste le plus élevé en cherchant toutes les voies et moyens. C'est ce qui devient dangereux pour la société. Donc ce qui entraîne naturellement, vous conviendrez avec moi, la perte de crédibilité du système éducatif. Et puis, les étudiants ont leurs responsabilités. Tout ça, il faut les relier dans un système de base, qui est le pays.
Il faut les relier dans un système de base qui est le pays. Alors, professeur, à quel point la corruption est-elle dangereuse dans les milieux éducatifs?
La corruption est un phénomène extrêmement dangereux dans les milieux éducatifs, parce que les diplômes n'ont plus de valeur. L'institution universitaire perd de sa valeur. Les universités vont produire des diplômés incompétents. Donc des gens qui ne seraient pas utiles à la société en réalité. Prenons un exemple d'un médecin incompétent. Vous voyez les risques auxquels la société est exposée. Vous imaginez une prescription médicale erronée venant d'un médecin incompétent va tuer des milliers de personnes. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais le plus grave, c'est que si on a l'impression que ce cycle de reproduction de la corruption demeure sans qu'il n'y ait une institution qui essaie de l'arrêter. C'est ça le plus dramatique. C'est le plus dramatique pour un pays. Donc, en fait, on produirait des incompétents pour une société qui n'en aurait pas besoin. Alors que l'idéal aurait été que les compétences soient produites en fonction des besoins de la société. Ce qui est loin d'être le cas pour nous.
Et cela revient à dire que dans les milieux éducatifs, la corruption est une cause du chômage chez les jeunes?
Bon, je dirais directement oui. La corruption a des conséquences sur le chômage des jeunes. Hein? Imaginez-vous, au lieu de recruter les diplômés qui ont le niveau réel, qui peuvent rendre service à la société, mais on recruterait un incompétent parce qu'il a corrompu. Vous imaginez? Ça a aussi des conséquences plus grandes parce que la dévalorisation du mérite, les jeunes les plus brillants, parce qu'ils n'ont pas d'appui et qu'ils ne peuvent pas corrompre, ils seront exclus de l'opportunité. Ils perdront leur motivation, ce qui va occasionner la fuite des cerveaux. Donc les gens diront, mais écoutez, que tu puisses étudier ou ne pas étudier, ce n'est pas nécessaire, parce que ceux qui n'ont pas mérité, ils occupent des postes les plus importants. Donc la dévalorisation du mérite est quand même assez grave. De l'autre côté, vous avez aussi la méfiance des employeurs vis-à-vis des universités. Qu'est-ce qui arrive par rapport aux étudiants qui sont formés localement? Les employeurs vont se décider au profit des étudiants qui viennent de l'étranger, qui vont présenter un diplôme, entre guillemets, qui serait plus méritant parce qu'ils sont formés dans les meilleures conditions possibles. Et ça, vous le savez, il y a beaucoup de cas qui arrivent comme ça. Et puis, l'autre conséquence, c'est que vous aurez une saturation du marché par défaut du pauvre. Hein? Donc les postes sont occupés par des personnes non méritantes. Et ce qui aggrave, à mon avis, le chômage structurel.
Oui, professeur, nous allons nous séparer, mais comment mettre fin à ces fléaux?
Mon cher ami, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique, hein? Il n'y a pas de solution miracle. Les pistes de solution, à mon avis, doivent être structurelles, graves. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des réformes institutionnelles. Par exemple, la mise en place d'organismes chargés de contrôler de manière autonome le fonctionnement de l'université. C'est possible. La digitalisation des inscriptions, par exemple, hein, des examens, la publication des résultats, cela peut réduire le contact humain, donc c'est souvent source de corruption. C'est un des éléments. Alors, ça veut dire aussi que pour réduire ça, en plus des réformes institutionnelles, il faut valoriser la méritocratie, récompenser les enseignants intègres, promouvoir les étudiants les plus brillants, en organisant des concours ou des postes. Aujourd'hui, lorsqu'on veut accéder à un grade, on remplit simplement des formulaires, mais je crois que ce n'est pas suffisant. On devrait organiser des concours, en plus des publications qu'on pourrait en avoir. Alors, mais il faudrait aussi penser à bien rémunérer les agents éducatifs, hein, parce que la sécurisation des salaires, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si les gens ne sont pas bien payés, ils continueront à faire ce qu'ils font. Même si vous avez encore beaucoup d'enseignants intègres qui ont une certaine éthique et qui font leur travail correctement. Des sanctions exemplaires pour dissuader tous les tricheurs. C'est là, peut-être que je peux dire qu'il faudrait ce mécanisme de transparence et de redevabilité dans l'éducation qui pourront réduire de manière drastique la corruption que nous déplorons tous.
Voilà, professeur Jean-Marc Mounzele, vous êtes reconnu pour votre engagement, surtout hein, dans la recherche et la formation de la jeunesse congolaise. Merci de répondre à nos questions, professeur.
C'est moi qui vous remercie encore une fois pour l'occasion qui m'a été offerte. Merci.
C'est tout pour cette première partie de votre magazine Banokapi consacré à l'impact de la corruption dans les milieux universitaires sur l'employabilité des jeunes. Je suis Sarah Soumbela, c'était pour moi un grand plaisir de vous présenter ce magazine. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Merci également à Christian Mapendano et à Chris. Merci à Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano pour la supervision. Nous disons également merci à Hippolyte Kapanga pour la prise de son, à Polydor Basunga pour la mise en onde. Mais ce n'est pas tout. Banokapi Éducation, c'est tout à l'heure après le bulletin d'information de 16h. Aujourd'hui, c'est le cours de mathématiques. La matière du jour porte sur les mesures de surface ou mesures agraires. Chers élèves, restez branchés pour ne rien rater et maximiser vos chances de réussir à l'épreuve. Banokapi Éducation, c'est juste après le bulletin d'information. Bye.